Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Du social à l'écologie, notre invité consacre sa carrière à dénoncer les abus, les mensonges, les atteintes aux autres, à coups de films, de livres et de prises de parole sans fond de teint. Réputée pour sa ténacité, cette journaliste réalisatrice d'investigation et auteure est notamment devenue le poil à gratter du monde de l'agro-industrie et son nom est désormais associé au Monde selon Monsanto, film qui a obtenu le prix Rachel Carson en 2009. Un combat pour faire connaître les méfaits des intrants chimiques sur les hommes, leur santé et sur la planète. Très tôt, cette fille de paysan des Deux-Sèvres, formée en sciences politiques en Allemagne à l'école de journalisme de Strasbourg, a parcouru le monde, dénonçant les exactions faites aux êtres humains, comme dans son film « Escadron de la mort » ou encore « Voleur Dieu », prix Albert Londres en 1995, et fustigeant les agressions commises par les hommes sur l'environnement, un engagement que l'on retrouve dans sa filmographie qui compte à ce jour plus d'une quarantaine de réalisations et une trentaine de prix. Aujourd'hui, La Voix est libre avec Marie-Monique Robin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, si je peux me permettre, journaliste donc engagée pour un monde meilleur. Vos films et livres portent un regard dénonciateur, mais aussi positif, révélant au public des solutions pour une autre vie, à côté de chez nous ou au bout du monde. Votre dernier film a pour sujet la réinsertion dans le monde du travail des chômeurs longue durée, le social avant tout, comme fil conducteur. Et tout à l'heure, un invité surprise prendra place dans le studio afin de croiser la parole avec vous, Marie-Monique Robin, dans cette émission, toujours en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, préparée par Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Alice Seyed. Bonjour à tous et bienvenue.
Paysans, fils et filles de paysans depuis 1700 au moins. Les Robins sont de cette terre des Deux-Sèvres. Le père, lui, c'était dans les années 50. Il a connu le premier tracteur et puis les pesticides. Marie-Monique, elle, a quitté la ferme pour Paris. Devenue journaliste, elle continue de parler de la terre, des paysans, mais à sa façon.
Elle a eu les moyens de faire des choses que nous, on sent profondément en nous, mais qu'on est impuissant à réaliser. Tout ce qu'elle dit, on est tout à fait d'accord.
Un caractère entier hein, qui vous vient de la terre peut-être, Marie-Monique Robin. On entendait à l'instant votre père. C'était dans un reportage diffusé sur France 3 édition Poitou-Charentes le 29 septembre 2012.
Ah, oui, ça m'a beaucoup émue. Mon papa y est toujours, ma maman aussi, hein, ils sont âgés. Mes parents étaient très attachés à la terre familiale. Et quand j'étais adolescente à 14 ans, j'avais fait l'arbre généalogique de ma famille. Tous les registres étaient à la mairie de mon petit village. Et donc j'étais remontée à 1630. Donc les Robins, vous voyez, c'est une vieille histoire de terre. Et ça compte beaucoup pour moi. C'est
les racines.
Oui, les racines. Que je revendique. Et que j'ai toujours revendiqué grâce à mes parents. Parce que vous savez, quand vous naissez en 1960 sur une ferme, que vous êtes très bon élève, vous êtes au collège, bien pour beaucoup, c'est les fils de paysans, c'était des moins que rien. Alors ça vous forge de caractère.
Donc le village s'est gourgé oui. dans les Deux-Sèvres.
Oui.
Et avec un père agriculteur embarqué dans l'agriculture moderne que vous avez dénoncé, bien sûr, dans vos films. Et c'est ce que vous dites, c'est que finalement, ce que vous dénoncez, vous le connaissez bien de l'intérieur, pour l'avoir vécu.
Oui, j'ai vu comment... Par exemple, les collègues de mon père, parce qu'ils avaient formé ce qu'on appelle un GAEC dans le monde rural, c'est-à-dire un groupement d'associés hein, pour exploiter une ferme plus grande, parce qu'il fallait que ce soit plus grand hein, quand on était dans l'agriculture moderne. Eh bien, ils étaient cinq associés, ils sont tous morts d'un cancer ou ont eu un cancer, y compris mon père. Et dans l'entourage de ma famille, eh bien, on a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de morts prématurées. C'est quand j'ai fait Le Monde selon Monsanto, donc 2008. Ça a vraiment provoqué un cataclysme dans ma famille. C'est-à-dire qu'on a, d'un seul coup, on s'est dit, ah bah oui, le cousin de mon père, qui a eu la maladie de Parkinson à 45 ans, finalement, bah, il passait beaucoup de pesticides, le voisin qui est mort. On a fait un lien, et ça a beaucoup touché mes parents, et mon père en particulier. Dans ce métier, vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 50% des agriculteurs qui vivent avec moins de 500 euros par mois. Un agriculteur se suicide tous les deux jours. Donc, c'est un milieu où il y a beaucoup de souffrance, et ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui, à mon avis, essaient justement de sortir du modèle agro-industriel dominant.
Mais alors comment vous expliquez, Marie-Monique Robin, que finalement ces paysans qui éprouvent ce mal-être ont du mal à envisager un changement radical et à passer à autre chose, hein.
Parce que c'est pas facile de le faire. Ce n'est pas évident. Les agriculteurs qui veulent changer de système ont besoin d'aide. Alors, à la fois d'aide pratique, c'est-à-dire on réapprend un nouveau métier, et puis évidemment financière pour accompagner cette transition. Et je fais souvent la comparaison, vous savez, au début des années 1960, quand je suis née, il y a eu Edgar Pisani qui a mené une grande loi d'orientation agricole pour transformer les fermes familiales et traditionnelles, comme c'était la ferme de mon grand-père, hein, en fermes modernes, entre guillemets, agro-industrielles. Eh bien, on a mis le paquet. On a envoyé des techniciens dans toutes les fermes. Mon père me raconte cette époque. Hein. Voilà, on leur a dit, c'est ringard ce que vous faisiez avant. Maintenant, il faut s'endetter auprès du Crédit Agricole. Il faut acheter des machines, il faut des pesticides, etc. Ils l'ont fait d'ailleurs sans aucune protection. Vraiment, parce que vraiment, évidemment, à cette époque-là, personne ne pouvait se douter que c'était des poisons aussi dangereux. Et ce qui explique l'hécatombe d'ailleurs dans ma propre famille. Hein. Et ça s'est transformé très vite. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait exactement refaire la même chose aujourd'hui s'il y a une vraie volonté politique, et transformer très rapidement l'agriculture industrielle en une agriculture décarbonée, déjà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. L'agriculture industrielle provoque beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et puis une agriculture durable, véritablement, et qui nourrisse avant tout les hommes avant de nourrir les animaux.
Il faut revoir la PAC.
Ah oui, il faut revoir la PAC. On a besoin d'aide. Même globalement, la transition dont on a besoin, donc dont une partie, c'est évidemment la transition agricole, alimentaire, hein, ne pourra pas se faire sans un financement. Et le financement passe notamment par les institutions européennes. On peut imaginer que ce soit la Banque européenne qui continue d'émettre des liquidités pour alimenter les spéculateurs sur le marché financier, le fasse pour encourager les États à mener ces politiques de transition avec un engagement d'abord de l'État, qui ensuite encourage les investisseurs privés à prendre le relais. Mais c'est ce qu'on a fait, vous savez, au XXe siècle, quand on a développé, déjà en commençant au XIXe siècle, quand on a développé toutes les grandes infrastructures dont nous jouissons aujourd'hui, le train, le téléphone, les autoroutes, c'est l'État qui a investi au départ. Et ensuite, c'est le privé qui a pris le relais. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Et dans l'agriculture, ça passerait, comme vous venez de le dire, par une réorientation des aides de la PAC pour soutenir véritablement les pratiques vertueuses en agriculture, et c'est évidemment l'agriculture biologique.
Alors, on a parlé de votre caractère bien trempé, hein, au début de l'émission, Marie-Monique Robin, que vous expliquez par cet enracinement aussi culturel et puis dans les Deux-Sèvres. Une sensibilité aux autres évidente, le refus des injustices, des inégalités, de la violation des droits humains, de la désinformation et du mensonge. Tout cela vous a amené à avoir une image aussi d'une journaliste tenace avec des enquêtes qui ont eu l'effet de bombe, hein, comme en Argentine ou en Colombie. Bhopal aussi a été un sujet de film pour vous, hein, cette catastrophe survenue le 3 décembre 1984, conséquence de l'explosion d'une usine d'une filiale de la firme américaine Union Carbide, produisant des pesticides. Vous êtes d'abord parti sur le terrain du social.
Social et, je dirais, droits humains. Voyez, c'est mon moteur. Et on peut tout regarder à travers le prisme des droits humains. C'est ça qui fait que je choisis mes sujets. Et je pense que c'est absolument fondamental. Alors, évidemment, ça veut dire aussi que je ne supporte pas les injustices, mais c'est même un peu lourd. Quand je suis en face d'une injustice, ça peut me rendre folle. Alors, c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'on perd ses moyens, vous voyez. Je ne supporte pas l'injustice et le mensonge. Et donc, évidemment, je peux être très tenace pour débusquer les mensonges.
Et parfois, on peut le dire, une simple phrase peut vous piquer au vif, Marie-Monique Romain, et vous lancer dans une enquête approfondie, comme celle de Bruno Le Maire, alors ministre de l'Agriculture. C'était sur France 2, dans l'émission Mots croisés, en février 2011. Écoutez-le, on en parle après.
Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide. Ça a toujours existé et ça continuera à exister parce que sinon vous ne produirez pas suffisamment.
Ah oui, ça je m'en souviens. C'est sur un plateau de France Télévisions. Je venais de faire un film qui s'appelait Notre poison quotidien. Je suis invitée pour en parler et j'entends Monsieur Le Maire qui était à l'époque ministre de l'Agriculture et qui dit ça. D'ailleurs, ça a donné la suite. C'est un film et un livre qui s'appelle Les moissons du futur. J'ai répondu à cette affirmation. Mais je l'ai prise au sérieux parce qu'en fait, on entendait tellement, j'ai dit maintenant, j'emploie le passé, hein, mais à l'époque, tellement qu'il y a des problèmes avec les pesticides, mais on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, que même moi, quand j'ai commencé à investiguer, est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides, j'avais un peu peur de devoir conclure que non, finalement, c'est un mensonge. Hein. Et d'ailleurs, j'ajoute aujourd'hui que quand M. Le Maire dit qu'on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, il oublie de dire qu'on ne le nourrit pas non plus avec. Ça ne marche pas très fort quand même, hein. Vous savez, d'après la FAO, l'ONU, près d'un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim, auquel il faut ajouter 1,5 milliard de personnes qui sont en état d'obésité, mais parfois aussi en état de malnutrition, comme j'ai pu le voir au Mexique, qui sont à la fois obèses et mal nourries. Malgré toutes ces sommes fabuleuses qui ont été, vous savez, injectées pour soutenir ce modèle agro-industriel, on peut pas dire que ça soit un succès. Mais la bonne nouvelle, c'est que, oui, on pourrait nourrir le monde beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui si on changeait de modèle agricole.
Alors la justice est entrée dans cette arène du combat pour l'environnement ces derniers temps. Est-ce une arme factice ou réelle? Je propose d'écouter tout d'abord cet extrait du film sur le tribunal de la haie, votre film. Donc ce tribunal de la haie contre Monsanto, ça s'est déroulé du 14 au 16 octobre 2016. Mmh. Et on écoute tout de suite la voix de l'avocat William Bourdon.
Vous avez une très belle tâche qui est d'ouvrir la voie pour que Monsanto et ses sbires et ses séides qui nous écoutent en temps réel sachent que le glas va sonner pour eux. Sachent que la messe va être longue à être dite, mais elle va être dite. Et vous allez le faire d'une façon formidable, en illustrant aussi ce que dit Victor Hugo. Quand la cupidité enfle tellement le moi, elle ferme la porte à l'âme et à toute l'humanité. Je vous remercie.
Ah oui, ça c'était donc à la haie, c'était donc, j'étais la marraine de ce tribunal international contre Monsanto. Et c'est vrai que la plaidoirie de William Bourdon avait été assez extraordinaire. Il s'adressait aux juges, qui étaient des vrais juges, hein, même si ce tribunal a été convoqué par la société civile, mais c'était des vrais juges qui siégeaient. Et on sent bien qu'il a très bien dit aussi, nous sommes au 21e siècle, on n'est plus au 20e siècle. Le 20e siècle, c'était le siècle des grands criminels de sang, c'est ce qu'il a d'ailleurs dit dans sa plaidoirie, voilà. Pour faire face à ça, on a créé un nouveau délit, hein, qui était au moment du tribunal de Nuremberg, hein, le crime contre l'humanité. Évidemment, c'était face à un programme de destruction des Juifs d'Europe, enfin, ce génocide organisé, etc. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, nous sommes entrés dans une ère où il faut un nouvel outil qui permette de faire face à la destruction de tous nos écosystèmes, avec tout ce qu'il y a dedans, parce que la biodiversité disparaît, les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent, et nous, nous, on estime...
Oui, c'est nous, avant la planète va nous survivre.
Ah bah ça c'est très clair, moi je dis toujours qu'il ne faut pas sauver la planète. La planète, même si vous regardez les choses très froidement, finalement elle tournera mieux sans nous, parce que quels parasites sommes-nous? Dans le monde biologique, il est très rare que, enfin ça n'existe pas d'ailleurs, les parasites qui vivent toujours au détriment de leur hôte, ils sont quand même assez malins pour ne pas détruire complètement leur hôte, parce que sinon ils savent qu'ils vont disparaître, et nous on fait ça. Donc aujourd'hui, il faut un nouvel outil qui serait donc l'écocide, hein, le crime contre les écosystèmes. Et on sent bien qu'on est à un moment charnière, mais dans plein de domaines. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si on va basculer dans le bon sens avant qu'il soit trop tard, ou avant que les monstres dont parlait Gramsci dans une citation que j'aime bien donner, le vieux monde est en train de s'effondrer, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. On est là, et les monstres, on les voit. Donc voilà, on est là entre les deux, et il va falloir qu'on gagne, parce que si on gagne pas, ben, c'est la fin pour tout le monde.
Donc il y a cette arme de la justice, et on le sent aussi depuis la rentrée, que ça s'emballe hein, sur ce terrain-là, notre affaire à tous, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui porte plainte contre le gouvernement.
Pour non-respect de ses engagements, notamment de la COP21.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on sent que ce terrain-là est en pleine ébullition, mais est-ce que c'est une arme factice ou réelle?
En tout cas, tout est bon pour stopper la machine de destruction en cours. C'est évident qu'aujourd'hui, les citoyens, face à l'inertie de leurs gouvernants, décident de saisir la justice. Et ça, c'est très nouveau. Alors, on voit bien quand même qu'il y a des décisions qui sont prises. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, au Danemark. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, ce sont très souvent des jeunes, maintenant, hein, qui disent stop et qui saisissent la justice. Et ça marche. Et moi, je suis ravie de voir que les jeunes s'emparent de ces questions, parce que c'est vraiment leur avenir, là, hein, qui est en jeu, véritablement. Et moi, je fais partie de celles qui dit tant mieux s'ils sèchent les cours. De toute façon, après, il n'y aura plus de cours. Donc, de toute façon...
Vous avez vous-même trois filles.
Étudiantes. Donc, elles sèchent les cours. Allez-y, les filles.
Et vous avez senti aussi que dans cette génération-là, il y avait des conséquences, même sur le plan de la santé, ou des jeunes touchés plus largement par des cancers, je crois.
Oui, bien sûr. On le sait très bien, l'incidence Le taux d'incidence des cancers, hein, donc c'est le nombre de nouveaux cas dans une population donnée, n'arrête pas d'augmenter, et dans toutes les tranches d'âge, et notamment chez les jeunes. C'est absolument frappant de voir le nombre de cancers du sein, par exemple, qu'il y a chez des jeunes femmes. Et puis, ils ont des problèmes d'allergie alimentaire. Ce qu'on voyait aux États-Unis il y a 10 ans, qui pour moi était un truc incroyable, et ça arrive, ça y est, chez nous. Et je connais plein de jeunes qui ont des problèmes d'intolérance alimentaire ou d'allergie alimentaire. Et puis, d'une manière générale, ils ont raison d'être inquiets pour leur avenir. À quoi ça sert de faire un doctorat? Moi, j'ai une fille aînée qui fait un doctorat, par exemple. Elle me disait récemment, maman, mais c'est quoi comme ça, on se fait un doctorat aujourd'hui? Mais c'est une vraie question, hein, franchement. Hein. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire quand même? Enfin, moi, je vais avoir 59 ans, mais quand j'avais l'âge de mes filles, je m'inquiétais. Enfin, vous voyez, c'est allé très vite. Donc, on est dans une situation d'urgence absolue.
Il y a cette société civile qui donne de la voix, effectivement, plus largement, Marie-Monique Robin, et ses dirigeants qui, pour l'instant, n'en prennent pas toujours la mesure. En effet, le tribunal de La Haye, par exemple, ou notre affaire à tous, n'a pas empêché l'Union européenne de reconduire l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. C'était en novembre 2017. Je vous propose d'écouter la réaction de Corinne Lepage, le 27 novembre 2017, sur France Inter.
Pour moi, c'est un scandale politique, sanitaire et juridique. Politique parce qu'une majorité d'Européens qui en veulent pas, qu'il y a une initiative citoyenne de plus d'1,5 million de gens et tout le monde s'en fout. Sanitaire parce qu'il est évident que les questions de santé publique sont prioritaires et ce qu'a publié Le Monde hier montre encore une fois très clairement la manière dont toutes les études ont été biseautées, y compris par le BFR, que l'Allemagne aujourd'hui a défendu et c'est pas à sa gloire. Et puis, troisièmement, sur le plan juridique, parce que j'ai fait une étude pour le Luxembourg, qui me l'a demandé, qui montre que le renouvellement n'était pas du tout juridiquement fondé. Et ce que j'espère, c'est que les États membres vont interdire les produits contenant du glyphosate, ce qu'ils peuvent juridiquement parfaitement faire.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Est-ce que c'est un de vos espoirs, Marie-Monique Robin? Est-ce qu'on peut croire vraiment à une sortie prochaine en France, par exemple? 2020, c'est ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron.
Alors là, franchement, c'est difficile de suivre, parce que d'un côté, après cette décision de l'Union européenne, qui a été prise par les gouvernements, hein, je précise toujours, parce que là on dit c'est l'Europe, n'empêche que ce sont les gouvernements qui ont voté. Donc de reconduire pour 5 ans l'autorisation...
18 pays, dont l'Allemagne.
Voilà, l'Allemagne qui a basculé au dernier moment d'ailleurs. Après, notre président, donc M. Macron, indique qu'on allait en sortir dans les 3 ans. En même temps, ça n'a pas été inscrit dans la loi, vous savez toute l'histoire. Et là, de nouveau, au détour d'un débat public, il annonce que oui, que quand même, dans 3 ans. En tout cas, dans ce dossier, ce qui est absolument incroyable, enfin, franchement, moi ça fait 10 ans maintenant que je suis ce produit, enfin, c'est Monsanto, donc voilà, de voir que là, on a tout, quoi. Hein. On a la preuve que le document qui a servi à la décision de l'Agence européenne de sécurité des aliments était un copier-coller d'un document fourni par Monsanto. On a la preuve que Monsanto, les Monsanto Papers, vous savez, a menti, manipulé, etc., etc. On a un document de l'ONU, l'OMC, qui montre que cette molécule est un cancérigène probable pour les humains.
Et on annonce une nouvelle étude.
Et on y arrive. Oui, oui, oui. Alors, voilà, j'ai entendu François de Rugy qui a annoncé hier sur France Inter que l'ANSES allait faire une étude. Moi, j'ai tweeté, non, l'ANSES ne fait pas d'études, elle fait des évaluations des études existantes. Mais ça, c'est déjà fait par le CIRC, qui est la référence en la matière. Le CIRC, ça dépend donc de l'OMS. C'est un peu comme le tabac à un moment, vous savez, voilà, on va encore attendre une nouvelle étude, et puis on repousse, puis on repousse. Donc, en tout cas, ça profite à Monsanto et Bayer, que maintenant, vous savez, ils sont mariés, les deux monstres se sont mariés, et puis à tous ceux qui prétendent qu'on peut pas faire d'agriculture sans glyphosate, ce qui est faux, parce qu'il y en a partout qui font de l'agriculture sans glyphosate. Alors la vraie question, en revanche, c'est que quand on fait de l'agriculture avec du glyphosate, pour s'en passer, eh bien, il faut changer de modèle et on a besoin d'être aidé. Donc moi j'ai toujours dit, il faut interdire le glyphosate, premier acte. Ça poussera d'ailleurs, ça sera un moment, vous voyez, un petit peu un électrochoc qui va pousser justement les agriculteurs à la transition, mais en même temps, parce que c'est le mot à la mode, en même temps, il faut accompagner. Voilà, si vous faites qu'une chose, c'est interdire, évidemment que il y en a plein qui, enfin, les agriculteurs qui l'utilisent vont être paniqués, et c'est normal. Donc, il faut les deux. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes, des personnages qui vous ont porté, qui sont ou qui ont été des modèles dans votre parcours, Marie-Monique Robin?
Il y en a plusieurs. Alors, d'un point de vue professionnel, évidemment, c'est Albert Londres. Vous savez, dont on cite toujours la phrase, alors pour ceux qui la connaissent pas, je vais quand même la redire. Notre métier de journaliste, donc, n'est pas de faire du tort, ni de faire du bien, c'est de mettre la plume dans la plaie. Pour moi, c'est fondamental. Vous savez, on dit toujours que la presse est le quatrième pouvoir. Les trois premiers, on sait ce que sont les trois premiers, donc législatif, exécutif, etc. Et ils sont censés œuvrer pour l'intérêt général. Enfin, on l'espère. D'ailleurs, la crise actuelle vient du fait qu'on commence à en douter. Si nous sommes le quatrième pouvoir, nous sommes aussi, nous, censés œuvrer pour l'intérêt général. C'est pas n'importe quoi d'être journaliste, vous voyez. Donc, c'est pas la même chose que de faire de la communication. Je dis pas que c'est mal de faire de la communication. En tout cas, il y a parfois une confusion qui se fait entre les deux. Non, c'est pas la même chose. Ça nous donne des responsabilités. Et moi, j'estime que mon métier, c'est de mettre la plume dans la plaie, évidemment, pour dénoncer ce qu'on a dit, à la fois les mensonges érigés en vérité, etc., etc. Mais c'est aussi œuvrer pour l'intérêt général. Alors, Albert Londres, moi, j'ai toujours été fasciné. Quand, vous savez, il a réussi à faire fermer le bagne de Cayenne, il s'est déguisé en vendeur de Bible, il est rentré là-bas. Et après, quand son papier est sorti dans le Petit Parisien, il a alpagué les députés dans la salle des pas perdus à l'Assemblée nationale en disant « T'as vu mon papier, là? Tu vas faire quelque chose ?» Ah ben voilà. Ben, moi, c'est ça, le métier de journaliste. Donc voilà, Albert Londres, c'est pour moi. Et quand je le relis, je trouve que c'est très moderne, très, voilà. Alors, sinon, il y a beaucoup de femmes, moi, qui m'ont marqué. Alors, Rachel Carson, évidemment, qui a écrit Le Printemps silencieux. C'est un livre qui est sorti au début des années 1960. C'était la première fois qu'on montrait l'impact
du DDT à l'époque.
Voilà, DDT et des pesticides. Alors, elle avait fait un travail énorme de collecter tous les rapports, les petits rapports, les courriers, enfin, vous voyez, envoyés par soit des citoyens ou un gardien des forêts, enfin. Et elle avait collecté tout ça dans tous les États-Unis et elle dressait un bilan dramatique, donc de l'impact sur la faune et sur la flore. Avec une question qu'elle avait déjà posée au début des années 1960. Et les hommes, alors? Elle avait raison, parce que les effets, on les voit aujourd'hui. C'est les cancers, et les cancers, c'est pas, voilà.
Elle-même est morte d'un cancer.
Elle-même est morte d'un cancer.
Elle était biologiste et journaliste.
Tout à fait. Et son ouvrage, Le Printemps silencieux, elle annonçait un monde sans oiseaux, et on est dans ce monde sans oiseaux. Les oiseaux, vous avez vu les dernières données, 30% des oiseaux qui ont disparu au cours des 15 dernières années en Europe. Un monde sans insectes, 80% des insectes qui ont disparu. Donc voilà, elle m'a beaucoup impressionnée. Et puis, une autre américaine, d'ailleurs, qui s'est beaucoup inspirée de Rachel Carson, c'est Theo Colborn, que j'ai rencontrée, elle est décédée maintenant, qui avait écrit un autre livre absolument remarquable, qui s'appelle Our Stolen Future, qui est en français traduit par L'homme en voie de disparition, et qui est la première à avoir posé le terme de perturbateur endocrinien. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Et c'était une femme remarquable, très courageuse, voilà. Donc ce sont des femmes, moi, qui m'ont beaucoup inspirée. Et puis, voilà, il y a plein de femmes. Dans le domaine des artistes, moi, je suis une fan de Frida Kahlo, par exemple. Parce que c'est certainement parce qu'elle avait un sale caractère et qu'une grande créativité. J'adore ce qu'elle faisait. Enfin voilà.
Et puis dans le monde des cinéastes ou documentaristes, on peut citer aussi Colin Serrault. Oui. Les films jouent un vrai rôle. Pour vous, c'est une arme beaucoup plus efficace que de partir en politique. Mais il reste certainement aujourd'hui à inventer des nouveaux modes de diffusion de films sur la toile.
Oui. Quand j'ai commencé finalement, maintenant ça va faire 35 ans que je travaille pour la télévision. Évidemment, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. C'est d'ailleurs très difficile quand il y a des jeunes qui viennent me voir, parce qu'ils me disent « on aimerait faire ce que vous faites ». Quel conseil nous donnez-vous? Eh ben, je peux vous dire que je trouve que c'est une question difficile. Parce que, en ce moment, c'est très clair, tout est en train de changer. La télévision, on la regarde plus de la même manière qu'il y a 30 ans. Et il y a vraiment quelque chose à inventer, et inventer aussi du point de vue économique, parce que faire les films que je fais, ça coûte cher, hein. Donc, la toile est un outil, évidemment, de diffusion des œuvres qui est très important, mais on n'a pas encore trouvé le modèle économique qui permette de faire un film comme celui que j'ai fait, le Roundup face à ses juges, où je suis allé au Sri Lanka, en Argentine, aux États-Unis, en France. Enfin, donc, on est encore une fois là aussi entre deux mondes. On sent bien. Et il faut construire ce nouveau modèle, à la fois économique et de diffusion des œuvres documentaire.
Donc changement de société, de vie, de consommation, en sachant qu'aujourd'hui, le social se confond avec l'écologie. De toute façon, on va en parler dans un instant aussi, ce retour au social avec votre dernier film. Et auparavant, Marie-Monique Robin, on va écouter votre choix musical. Alors, vous aviez le choix, hein, parce que c'est vrai que vous nous avez proposé alors une Allemande, bien connue, Nina Hagen, avec une chanson spécifique, on va en parler.
Trainen.
Vous auriez pu choisir le Chilien Victor Jara.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai choisi, j'aime beaucoup, beaucoup Nina Hagen. C'est toute une partie de ma vie qui est très importante. J'ai passé 5 ans en Allemagne quand j'étais étudiante. C'était l'époque où l'écologie politique naissait en Allemagne, avant nous, les Grünen, à la fin des années 1970. Et j'ai pu voir Nina Hagen en concert. Et le côté rock et opéra, pour moi, c'est formidable. C'est absolument, vraiment extraordinaire. Et là, récemment, j'ai sorti tous les 33 tours, parce que vous savez, je m'en suis racheté une platine et tout, et j'ai remis Nina Hagen, voilà. Et cette chanson-là, en particulier, Naturtränen, c'est les larmes de la nature. En la réécoutant aujourd'hui, ça a pris encore, une toute autre dimension, évidemment, qu'elle n'avait pas à l'époque, indépendamment de la performance artistique absolument incroyable de Nina Hagen dans cette chanson. Mais en plus, le contenu de la chanson, aujourd'hui, vraiment,
ça résonne
vraiment.
Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter fennen.
Nina Hagen.
Super.
Ah bah oui, formidable.
Quelle puissance.
Et quelle performance, comme vous disiez, Marie-Monique Robin. Et c'est la suite de notre émission avec vous, hein, De cause à effet sur France Culture, émission qui vous est consacrée. Je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours que vous êtes journaliste, auteur, documentariste, iconoclaste, on peut le dire, au caractère bien trempé, du genre à ne rien lâcher et à ferrailler jusqu'au bout, une ténacité qui vous vient de la terre. Celle de vos parents, votre père qui labourait dans les Deux-Sèvres. Et puis vous êtes une femme qui, du social à l'écologie, a toujours lié ses tenants d'un monde plus humain et plus respectueux de la nature et du vivant au sens large. Marie-Monique Robin, donc auteure de nombreux films et de livres, hein, dont les derniers, on peut y citer, Le Random face à ses juges, et puis Sacrée Croissance aussi, tous vos livres parus à la découverte. Et votre dernier film, Objectif Zéro Chômeur, l'incroyable histoire d'une entreprise pas comme les autres, un film qui sera diffusé donc le dimanche 17 mars à 21h dans Zone Interdite sur M6. Une aventure, là aussi, au long cours, vous avez suivi ces choses. Chômeur de longue durée pendant 3 ans.
Oui, 3 ans, tout à fait. C'est une expérimentation qui a été portée par ATD Carmonde, qui a donné lieu à une loi d'expérimentation. Donc j'ai suivi cette aventure depuis le début, avant même que la loi passe. Donc en deux mots, l'idée d'ATD Carmonde, c'est qu'un chômeur de longue durée, ça coûte environ 18 000 euros par an à la France, si on tient compte de tout. Et plutôt que de donner cet argent d'une manière ou d'une autre, voilà, en soins médicaux, parce qu'une partie c'est ça, par exemple, hein, voilà, quand on va mal, on est plus souvent malade, enfin, etc. Eh bien, il vaudrait mieux le mettre dans un pot commun pour créer une entreprise qui permette d'embaucher tous les chômeurs de longue durée qu'ils désirent. Et c'est ce qui se passe actuellement, enfin, c'est passé dans 10 territoires, dont la ville de Mauléon, dans mes Deux-Sèvres natales, qui a été donc l'une des 4 villes qui se sont portées volontaires. Et moi, j'ai suivi tout ça et c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'au début, donc, j'ai filmé des chômeurs qui allaient très mal. Et quand on est en chômage de longue durée, ça fait plus d'un an, parfois c'est 4-5 ans, hein, qu'on ne travaille plus. Donc on vit vraiment dans une très grande précarité. J'ai vu comment petit à petit, bon, ils ont été recensés, et on leur a proposé des entretiens individuels, et puis ils ont commencé à chercher les travaux qu'ils pourraient réaliser dans le territoire. L'entreprise a été créée, et ça part de rien, quoi. Et puis aujourd'hui, il y a plus de 80 salariés.
Et il y a un chiffre d'affaires, et ça roule
marche,
tout seul.
Ils sont débordés de boulot. Alors il faut savoir que la loi dit quand même qu'il ne faut pas qu'évidemment que les activités que mène cette entreprise à but d'emploi, c'est son, son nom. Donc on embauche d'abord et on cherche du travail ensuite. C'est, on marche à l'envers, hein, dans une EBE. Eh bien, ces travaux ne doivent pas entrer en concurrence avec l'économie classique. Il s'agit de ne pas détruire des emplois en créant de nouveaux, parce qu'évidemment, ça ne servirait à rien. C'est plutôt d'être complémentaire. Et là, on découvre, et c'est vraiment l'actualité, que dans un territoire rural comme Mauléon, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits en France, il y a plein de besoins non satisfaits de la population parce qu'ils ne sont pas rentables, donc il n'y a personne pour prêter ses services, vous voyez, et partout. Et au fur et à mesure que l'entreprise se développe, on voit ça, eh bien, ces besoins s'élèvent et les gens disent « Ah ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça ».
Et du coup, il y a un dépôt de pain qui n'existait plus, voilà. Des travaux à faire dans des écoles, dans des EHPAD, accompagner les personnes âgées, etc. Voilà.
Ou
donc c'est aussi de l'humain. Voilà. Et c'est aussi des liens avec l'environnement.
Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit donc. Et le fait que j'ai filmé 3 ans, j'ai vu des anciens chômeurs qui étaient mal sapés, excusez-moi s'ils nous écoutent, parce qu'ils le savent très bien aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement.
Mentalement détruits.
Et aujourd'hui, transformés, mais physiquement. Et on le voit devant la caméra, parce qu'évidemment, j'ai filmé pendant 3 ans. Donc ça, c'est le grand mérite de... J'aime beaucoup écrire, hein, c'est autre chose, mais ça... Il n'y a pas besoin de commentaires, ça se voit à l'image, hein, et c'est pas les mêmes, ils changent. Moi, je suis allée là-bas tous les 3 mois pendant plus de 3 ans. Et donc, ils sont transformés. Et le territoire dans lequel ils sont aussi, c'est aussi transformé. Et ils deviennent des, évidemment, ça c'est complètement, c'était pas prévu. Par exemple, l'une des activités très importantes pour l'entreprise, c'est le recyclage. On découvre qu'en France, on enterre des fenêtres entières qui sont broyées, parce qu'on, voilà, on les change, mais personne n'est là pour les recycler.
Et puis elles ne sont plus aux normes.
Et voilà, donc on les broie, on les enterre, enfin, etc. Et ils deviennent des agents. Enfin, en tout cas, ils sont convaincus de l'économie circulaire, n'est-ce pas, du fait que le modèle actuel économique est complètement obsolète, quoi. Et donc, ils deviennent les porteurs d'un projet écologique utile, mais c'est pas idéologique, parce que voilà, ils disent eux-mêmes, voilà. Et ça, pour moi, cette expérimentation, d'abord, c'est un laboratoire d'innovation économique et sociale, absolument capital aujourd'hui. On a besoin d'alternatives, de solutions, pour voir comment on va faire, hein, pour changer de cap, pour éviter l'effondrement. Voilà, c'est ce qui nous attend. Et en plus, ce qui est super quand même, c'est qu'ils ont tous la patate, excusez-moi l'expression, parce que vraiment, avoir des gens comme ça qui étaient si mal, et maintenant, c'est très touchant, quoi. C'est très émouvant. Et je suis très contente que ce film passe sur M6, parce que c'est une émission très populaire, et je voulais que ce film soit vu par le plus grand nombre. Hein, et j'espère que ça va inspirer nos élus, parce que normalement, il y a une première loi d'expérimentation qui a permis ce transfert d'argent, hein, donc... Et il devrait y en avoir une deuxième pour étendre le dispositif à d'autres territoires.
Il retrouve aussi une dignité. Alors, rapidement, Marie-Monique Robin, parce qu'on va faire rentrer l'invité surprise dans le studio. Vous êtes aussi marraine du collectif de résistance contre le projet Europa City à Gonesse.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je m'étais beaucoup engagée dans le projet de Notre-Dame-des-Landes. Bon, voilà. Comme moi, j'habite dans le 93, pas très loin de chez moi. Il y a donc le triangle de Gonesse. Ah ben ce projet, évidemment, c'était évident pour moi qu'il fallait s'engager pour qu'il ne voit pas le jour. Je rappelle que c'est donc le triangle de Gonesse, c'est un territoire en banlieue parisienne, avec des terres agricoles extrêmement fertiles, parmi les plus fertiles d'Europe, n'est-ce pas, où il y a un projet immobilier de faire un grand parc de loisirs.
Sur des terres cultivables.
Voilà, avec 230 000 mètres carrés de boutiques. Ils ont même pensé à un moment à une piste de ski. Alors apparemment, là, ils sont en train de faire marche arrière. Mais enfin, vous voyez, un truc délirant, quoi. Délirant, alors qu'on a besoin de ces terres. Si on veut, même, vous savez, on a une loi la loi sur l'alimentation qui prévoit, d'ici 2022, qu'il y ait 50% de produits locaux dans l'assiette de nos enfants dans les cantines ou dans les EHPAD, d'ailleurs, et 20% de produits bio. Si on bétonne ces terres, eh bien, ça sera évidemment impossible. Donc, j'invite tout le monde à venir. Il y a un grand rassemblement le 19 mai, participer à ce rassemblement qui aura lieu à Gonesse. Et la semaine dernière, nous étions 1500 dans une salle Olympe de Gouges, et je suis très heureuse parce que voilà, on voit que ça bouge, et c'est un projet absolument capital, et il ne faut absolument pas qu'il voie le jour. Voilà.
Il est l'heure de faire entrer l'invité surprise de la seconde partie, mais découvrons tout d'abord sa voix. C'était le 26 septembre 2013 sur France 3 dans le journal du soir.
J'essaye de montrer qu'il y a une profonde contradiction, qu'on est englué dans une profonde contradiction en ce moment, parce que pour sortir de la grave crise économique et sociale dans laquelle on se trouve, il nous faudrait plus de croissance. Et on voit bien quand même que cette croissance, elle entraîne des maux, des dégâts sur notre environnement. Et je crois que ça, on est vraiment dans une espèce de croix. Ça fait 30 ans qu'on a quand même de moins en moins de croissance. Si on regarde les courbes pour les pays occidentaux, c'est extrêmement clair. Tous les 10 ans, on diminue d'un point. Donc on a de moins en moins de croissance. Je crois qu'il faudrait maintenant peut-être qu'on se demande ce qu'on ferait si la croissance ne revenait pas.
Et Dominique Bédard.
Voilà, vous l'avez reconnue, Marie-Monique Robin.
Ah ben oui.
Allez, elle entre
Super.
Dans le studio. Installez-vous.
Super, bonjour.
Je précise pour nos auditeurs que vous êtes professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, philosophe, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale au Collège d'études mondiales. Et puis ben voilà, vous avez aussi commis des livres hein, avec notamment Dominique Bourg et Alain Kaufmann, le livre L'âge de la transition,
oui.
paru aux éditions Les Petits Matins. On peut aussi citer Une autre voie est possible, hein, c'était chez Flammarion, avec Éric Heyer et Pascal Lauquiec. Vous connaissez toutes les deux depuis longtemps?
Ça fait combien de temps, Dominique?
C'était notre affaire de Notre-Dame-des-Landes, justement. Un jour, Marie-Monique m'appelle, je la connaissais pas, elle me dit « Je voudrais bien vous rencontrer pour vous demander quelque chose. » Alors, on se voit et Marie-Monique me demande si je peux lui remettre la Légion d'honneur sur le site de Notre-Dame-des-Landes.
Voilà.
Original.
C'était en 2013. Oui, c'est vrai. En fait, on s'était jamais physiquement rencontrés. Moi, je te connaissais par
moi
ce que
aussi,
t'as fait.
Bien
voilà.
Sûr, bien
et
sûr.
En fait, quand c'était Delphine Bateau qui m'avait désigné pour la Légion d'honneur, je savais pas trop quoi en faire. Et j'avais appris que quand on est désigné, j'apprends ça par le journal officiel. Enfin, je m'attendais pas du tout. Je croyais même que c'était une erreur. Enfin bon, qu'on pouvait se la faire remettre par quelqu'un. J'ai commencé à chercher qui l'avait eu. On peut pas se la faire remettre par n'importe qui, quand même.
Ah oui, quand même.
Et donc,
et puis tu voulais que ce soit une femme.
Voilà. Je voulais que ce soit une femme. Écolo, je peux dire ça comme ça. Hein. Enfin,
bien
en tout
sûr.
Cas, très très sensible aux questions. Et aussi à la question de la croissance. Et Dominique, enfin, je te remercie parce que je me suis rendu compte quand même à quel point, enfin, vu ce que tu fais aussi, hein, c'était quand même un sacré challenge.
Non, mais j'ai un souvenir extrêmement ému de ce moment,
oui.
puisqu'on est parti avec des cars,
oui.
on s'est tous retrouvés là-bas,
ouais.
ça battait
ouais.
son plein là-bas,
ouais.
la résistance.
À 2013, ouais.
Et donc on s'est installé dans la
ouais.
ferme avec
ouais.
ces gens merveilleux,
merveilleux. Ouais.
merveilleux.
À la vacherie.
Et voilà, pour moi c'était très important
ouais.
de me trouver là, de te la remettre. Il y avait Jado, il y avait,
ouais. Ouais.
et il y avait tous les gens
personnes
en résistance
était,
là-bas
ouais.
qui étaient très émus aussi qu'on fasse ça tous ensemble.
Ouais.
C'était un très 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 beau
ouais.
moment.
Et c'est vrai que pour vous, Dominique Bédard, parce qu'il faut préciser hein, que vous avez aussi dans votre parcours, donc vous êtes passé par l'ENA notamment,
mm-hmm.
que les arcanes des ministères vous les connaissez,
mm-hmm.
donc ça veut dire que vous étiez aussi là, Notre-Dame-des-Landes, mais de l'autre côté, vous saviez effectivement ce qui se tramait dans les ministères.
J'étais pas à l'époque, j'avais quitté un peu les ministères, mm-hmm. j'y suis restée très longtemps, j'ai passé une quinzaine d'années mm-hmm. À l'Inspection Générale des Affaires Sociales et au ministère du Travail.
Mais vous en connaissez bien les méthodes.
Tout à fait. Et c'est vrai que je m'en étais éloignée aussi pour retrouver une forme de liberté, hein, de liberté de parole. Parce que bien sûr, si j'avais été encore en activité dans l'administration, j'aurais jamais pu faire ça. Et c'est quelque chose de très précieux, hein, la liberté de parole. La possibilité, en effet, de dénoncer un certain nombre de politiques. Et voilà, l'avenir nous a montré qu'on avait
raison.
La suite des affaires nous a montré qu'on avait raison.
Oui, mais quand même, je dis que c'était courageux de ta part. Parce que même si tu n'étais plus dans les ministères, donc j'aurais pas pu faire, enfin, t'appeler, mais quand même, c'était un acte.
C'était
pas rien.
Non, mais c'était un acte militant, bien sûr.
C'était un acte militant fort. Et on a gagné, donc on avait raison.
Donc, deux femmes dont les préoccupations pour l'avenir se rejoignent. Pour vous, Dominique Mida, dites-nous, c'est quoi votre société idéal. Vous travaillez hein, sur ce monde du travail qu'il faut faire naître ou renaître face au réchauffement climatique. Donc, donnez-nous un petit peu la potion magique.
Alors, un des derniers livres que j'écris souvent avec des collègues, s'intitulait « Vers une société post-croissance ». Donc, on imagine une société, en effet, dans laquelle on aurait réussi la transition écologique. Donc, on serait passé dans un autre monde, en quelque sorte. Alors, c'est très compliqué. Il faut dessiner le chemin. Et c'est une société qui a tenu ensemble ce qu'on n'a pas fait ces derniers mois, la question écologique et la question sociale. Et j'ai écrit plusieurs bouquins depuis La mystique de la croissance et puis le tout dernier que vous avez cité, écrit avec un économiste et un juriste, qui s'appelle Une autre voie est possible, mm-hmm. pour dire que oui, c'est possible. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative, c'est pas vrai qu'on est obligé de se laisser comme ça, finalement, de regarder l'effondrement arriver tranquillement sous nos yeux. Une autre voie est possible.
Donc en dehors du tout capitalisme, en dehors du diktat du PIB.
Mais oui, en dehors du dictat. Alors, en effet, moi, je milite depuis longtemps pour qu'on ait d'autres indicateurs. Or, c'est pas la panacée, hein. Puis c'est pas parce qu'on va avoir d'autres indicateurs que tout va changer. Mais ce sont d'autres balises et surtout d'autres grilles de lecture qui permettraient de rendre visibles les dégâts qu'on voit pas avec notre Bible. Et donc, de nous permettre de montrer qu'un autre chemin est envisageable. Et une proposition, mais sur laquelle on se rejoint tous, hein, et je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement ne le fait pas. Enfin, si, je comprends un peu, mais ce serait de consentir un investissement massif dans la transition écologique. Alors nous, on dit à peu près 20 milliards par an, hein, pour la seule transition écologique. Ça veut dire notamment rénovation thermique des bâtiments qui coûte cher, et puis tout ce qu'on sait qu'il faudrait faire, et qui constituerait aussi un accompagnement social, hein, ce que Nicolas Hulot nous a dit qu'il n'avait pas eu les moyens de faire, parce que Bercy n'avait pas voulu. Alors, pourquoi est-ce que ça résiste? Parce que il y a la dette qui serait trop importante, il y a les critères de Maastricht d'abord, du pacte de stabilité de croissance après, mais tout ça, ça ne devrait rien peser par rapport à l'urgence de la situation. Donc, moi, je crois qu'on sait à peu près ce qu'il faudrait faire, hein.
Bien sûr. On a les savoirs théoriques. Tout ce que tu as fait, toi, partout dans le monde, les économistes, les sociologues, enfin, il y a tout un corpus, n'est-ce pas, de travaux scientifiques, universitaires, enfin, que tu as fait. Et puis, tu as tous ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, moi. Tous ces gens, ces hommes, ces femmes, beaucoup de femmes, qui montrent ici et maintenant qu'on peut faire autrement. Alors, c'est dans le domaine de l'agriculture, c'est dans le domaine de l'énergie, c'est dans le domaine. Enfin, voilà. Donc, on a à la fois le corpus, je veux dire, technique, idéologique, enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Et puis, les savoir-faire pratiques. Et c'est qu'une volonté politique, parce que tu parles du financement, mais la Banque Centrale Européenne, elle émet chaque mois des milliards de liquidités. Et qui finalement finissent sur les marchés financiers. Et on pourrait très bien se dire, on fait comme on a fait au XXe siècle, hein. On encourage les États à investir dans cette transition dont on a besoin pour encourager les privés ensuite à prendre le relais. On a fait ça pour...
Il y a ce projet d'ailleurs de banque pour le plan climat porté par la route Roux, et puis Jean Jouzel.
Absolument.
Ouais. Donc l'argent existe.
L'argent existe, mais on nous prend encore un peu pour des folles. Je crois quand même que... On ne nous prend pas au sérieux, c'est-à-dire dans ce monde. Pourtant, moi, j'ai essayé de montrer que j'étais une bonne élève. on nous prend pas au sérieux, c'est-à-dire que quand même le monde est dominé par des économistes plutôt mainstream qui utilisent, qui mobilisent des cadres classiques, le PIB, et tout un cadre cognitif qu'il est très difficile de remettre en cause. C'est très difficile de dire on va plus compter comme ça. C'est une toute nouvelle grille, non seulement de comptabilité, micro et macro, mais aussi c'est un renversement mental, en fait. Il faut avoir d'autres, de nouvelles catégories, y compris de nouvelles catégories des rapports entre humain et nature, quoi, en fait.
Changer le modèle économique, changer le projet de société, nos modes de production, nos modes de consommation.
De logiciel. Mais je pense que les jeunes, comme toi, tu enseignes à Dauphine, par exemple, j'aimerais bien savoir, parce que moi, j'ai mes filles qui étudient à l'école normale des hautes études, enfin, à droite, à gauche, etc. Et on a vu récemment ces grandes écoles qui ont...
Mais justement, à Dauphine, nos étudiants, ils sont en train de se lever. Et tous les vendredis matins, on fait des ateliers dans la cour de Dauphine, là-dessus, hein, sur la valeur de la nature, sur toutes ces questions-là, la question sociale et la question écologique. Et l'après-midi, ils vont devant le ministère de l'écologie pour réclamer des mesures. Et en effet, ça, c'est important.
Ah, puis ça fait plaisir, hein. Enfin, vraiment, hein, voilà. Mais il faut que, le problème, c'est qu'on n'a plus le temps et que,
il faut faire vite.
Moi, par rapport au moment où on se rend compte physiquement, toi et moi, il y a 6 ans, là, on sent bien l'urgence bien plus qu'il y a 6 ans.
Bien sûr. Et c'est vrai que l'absence d'oiseaux, quand on se voit, est quelque chose de sidérant. Le silence. Qu'on n'avait jamais auparavant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, toi aussi, je suppose, le bouquin d'Aldo Léopold, Almanach d'un comté des sables,
magnifique.
Où c'est tellement sensuel, en effet, le rapport avec les animaux et la nature. Et il a cette phrase magnifique, je la raconte à mes étudiants quand je fais cours là-dessus, il dit qu'il faut avoir pour la nature du respect, de l'amour. Et que tant qu'on n'aura pas de l'amour pour cette nature, on ne pourra pas changer, en fait.
Il y a un an, Dominique Méda, quasiment, donc c'était le 26 mars 2018, vous avez signé une tribune dans Libération intitulée « Pour une Europe plus sociale, plus écolo, plus solidaire », c'était avec Benoît Biteau, Damien Carême, Yannick Jadot, Marie Desplechin. Quelle Europe voulez-vous? Est-ce que ce n'est pas l'échelle idéale pour sortir du tout carbone, du tout pesticide? Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des pays peut-être qui peuvent être un peu plus les locomotives du phénomène?
J'ai envie de vous dire oui, mais comme on se disait hier avec des collègues, ça fait 30 ans qu'on se dit qu'on voudrait une Europe sociale, écologique. et qu'on n'y arrive pas. Parce que bien sûr que c'est le niveau idéal pour avoir des politiques presque alimentaires, bien sûr de mise en place des énergies renouvelables. C'est l'endroit où on pourrait faire des investissements massifs pour changer. On aurait comme ça un continent entier qui changerait et qui, on peut penser du coup, qu'il entraînerait le reste du monde. Mais là encore, ça résiste tellement et on est tellement divisé et cette question n'a tellement pas été mise en priorité que, et je vois bien que pour les prochaines élections européennes, avec la division que l'on a à gauche et avec les et avec les écologistes, on va encore pas pouvoir mettre parce qu'on aurait eu voilà un rassemblement de la gauche et des écologistes, même encore un peu plus large sur cette question urgente. On aurait pu faire quelque chose, mais là, je pense que on va avoir une majorité d'eurosceptiques, donc c'est ce qui pouvait arriver de pire.
Ouais. Oui, c'est très dur. Hein. Il y a la question des égos, hein, quand même, qui est, moi je pense, un vrai problème. C'est souvent des égos de mâles, avec un accent circonflexe, quand même. Enfin, moi, je dis crûment,
quand on
mais...
regarde, à part, il n'y a que des listes menées par des hommes.
Des hommes, oui. Et je pense qu'il faut... Alors, voilà, on parlait de cet entre-deux mondes, hein, donc là, et si on veut basculer du bon côté, ben, il faut qu'on arrive à rassembler, mais je pense que c'est même en cassant toutes ces vieilles cases politiques qui dataient du XXe siècle, à mon avis, hein, et rassembler sur des gens qui ont compris, donc à la limite ça peut être de n'importe quel bord politique.
Fin... Oui, alors moi j'ai du mal à non, dire mais... qu'il faut être au-delà de la droite et de la gauche, parce que mais c'est vrai que la gauche a été productiviste aussi. Hein,
voilà, très productiviste, de... donc il y a des gens à droite qui...
Tout à fait, voilà. Tout à fait,
alors,
c'est vrai.
Il ne faut pas perdre de vue, je suis d'accord avec toi, qu'on a une monnaie avec deux faces, l'une, il y a la crise sociale et la crise écologique, et,
voilà.
Et qu'elles sont liées, oui. Et que sans, enfin, théoriquement la gauche est plus sensible à cette question, mais elle a été très productiviste, et je pense qu'il y a beaucoup... On parlait du triangle de Gonesse, je rappelle que Gonesse, le maire, c'est un PS, et qui se bat pour avoir sa piste de ski. Oui. Voilà.
Mais donc, on ne pourra pas résoudre la crise écologique sans résoudre d'abord, me semble-t-il, la crise sociale, c'est-à-dire d'abord plus d'égalité pour faire des politiques écologiques, parce qu'une politique écologique qui ne tient pas compte des inégalités... On l'a vu avec la taxe carbone, elle est vouée à l'échec.
Oui, mais sauf que la taxe carbone, elle n'avait rien, enfin, je veux dire, elle était tellement partielle, j'allais dire tellement mal ficelée, en laissant de côté les paquebots, enfin, etc., les avions, enfin, que ça ne pouvait que provoquer cette réaction, à mon avis. Mais
comment est-ce que vous voyez les choses alors toutes les deux? Parce que si je vous comprends bien, en haut de la pyramide, les oreilles sont fermées, les verrous sont bloqués, et donc l'espoir vient de la base, peut venir de la société, c'est-à-dire Dominique Méda. Est-ce que si chaque citoyen conscient décide vraiment au quotidien de changer son mode de vie, de consommation, est-ce que toutes ces petites touches mises ensemble, ça peut faire bouger l'avenir?
Moi, je pense que ça suffit pas.
Ouais, je suis d'accord.
Je pense que ça suffit pas parce que c'est exactement la même question que celle du dumping social. Hein, y a un très beau texte, la Déclaration de Philadelphie, qui remet en selle l'Organisation internationale du travail en 1944, qui dit que si on veut un régime de travail réellement humain, alors il faut que toutes les nations s'y mettent. C'est-à-dire, si on a une seule nation qui le fait pas, ben on n'arrivera pas à le faire. Et là, c'est exactement le même sujet. Si on a un seul pays qui ne fait pas comme il faut, et si on a plein de citoyens qui agissent très bien, on ne va pas arriver à changer les choses. Alors, on ne va pas non plus attendre qu'on ait un accord international,
voilà.
Hein, et une organisation mondiale de l'environnement, etc. Donc, voilà, il faut qu'on joue sur tous les niveaux en même temps. Mais que peut faire la base pour l'instant? Moi, je pense qu'elle peut, se révolter contre ceux qui ne mettent pas suffisamment ces questions à l'agenda et se coaliser. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Coaliser sur
c'est
un programme.
Moi, je le vois partout parce que je me balade beaucoup avec mes films. Notamment, j'ai vu Qu'est-ce qu'on attend, le film sur le village alsacien en transition. J'étais venue d'ailleurs dans votre émission. Et je vois que partout, il y a des collectifs de citoyens et qui agissent alors dans différents domaines qui vont dans le sens de la transition. Parfois s'épuisent, d'où là, parce qu'on on a l'impression qu'on est toujours entre soi, enfin, et qui du coup ont besoin des élus. Il y a beaucoup d'élus locaux qui agissent.
Oui, il y a quand même des expériences de territoire qui marchent.
C'est quand même eux qui doivent faire face, les élus locaux, aux problèmes du chômage de longue durée ou des inondations. Enfin voilà, l'échelle territoriale est à mon avis très importante, mais même c'est l'une des clés de la transition. Mais le problème, c'est comme on n'a plus le temps, on a besoin plus que jamais d'un niveau donc gouvernemental qui prenne les bonnes mesures pour encourager toutes ces initiatives qui ont lieu sur nos territoires, parce que sinon ça suffira pas.
Ouais. Et moi je pense qu'il nous faudrait, alors il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais un manuel de la transition, c'est-à-dire un manuel qui nous dessine sur les 20 ans à venir, mais de façon presque précise, hein, tout ce qu'on fait, dans quoi on investit, comment on résout la question de l'emploi à tel endroit, comment on lie le territorial au régional, au national, comment on fait avec l'Europe. Et ça sur les différentes politiques économiques, de l'emploi, les animaux, l'eau, les forêts. Voilà. Ça, si on pouvait avoir une coalition de chercheurs et de personnes de la société civile qui construit ce manuel pour montrer là encore que c'est possible, ce serait absolument intéressant.
Ça paraît faisable dans le sens où les paroles que l'on entend sont portées par justement de nombreuses personnes et personnalités de secteurs universitaires très différents, des économistes, des sociologues, des psychologues, des philosophes. Enfin, il y a vraiment, on sent qu'il y a tout en gestation. Donc, la rigueur, oui. Vous pouvez peut-être l'initier, ce manuel, Dominique Méda.
Allez, avec Marie-Monique.
Hein. Et avec un collectif, bien évidemment.
Oui, ouais, bien sûr. Pas.
Allez, deux femmes, mues par le projet aussi d'un appel de femmes. Non, vous êtes féministe, mais alors, dans quel sens du terme?
Dans tous les sens.
Bah, oui.
Pour vous, parce que vous savez que être féministe, ça peut être pris de façon plus ou moins positive ou négative. Vous, ce féminisme-là, celui qui vous porte, vous le définissez comment?
Moi, je le définis comme la recherche d'une égalité totale, complète entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, il y a des différences biologiques et on ne tire aucune conséquence de ces différences biologiques. Et les femmes doivent avoir accès avec exactement les mêmes chances ou malchances que les hommes à l'emploi, aux études, à la vie familiale, au temps libre, etc., etc.
Sans plus se poser la question du genre, c'est-à-dire est-ce qu'on est un homme ou une femme? Et Marie-Monique Robin, c'est votre définition de votre féminisme à vous?
Alors, moi j'ai souvent constaté dans mes voyages et tout ça, quand je faisais le tour du monde des alternatives, que les femmes, très souvent très actives dans ces initiatives, je dirais même les chevilles ouvrières, c'est-à-dire que si elles n'étaient pas là, voilà. Alors souvent c'était des hommes qui lançaient, enfin voilà, c'est un constat, hein, voilà. Mais sans les femmes... Et j'ai pas mal réfléchi à ça avec Émilie Hache, par exemple, qui a écrit sur l'écoféminisme, tu vois. Et elle disait, bon, sans tomber dans... Elle disait quand même, il y a une chose, c'est que dans la place qu'on a assignée aux femmes, qui est un fait dans la société, c'est quand même prendre soin des personnes les plus vulnérables. Hein. Bon, chose dont finalement, on peut... enfin, moi je me plains pas, enfin, j'aimerais bien que les hommes, ce soit pareil, mais en tout cas, moi, c'est une chose qui, voilà. Eh bien, fait aussi qu'il y a une plus grande sensibilité pour ces questions environnementales. C'était, en gros, elle citait, voilà. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'elles prennent soin de la maison, quand même, même si on a des hommes, moi, le mien, par exemple. Qui, voilà, mais bon, n'empêche qu'elles prennent soin de la maison, et la petite, la grande, enfin, entre la petite maison et la maison commune, enfin, ça serait peut-être l'une des explications, enfin, je sais pas ce que tu en penses, qui fait que on retrouve beaucoup plus de femmes, mais vraiment qui s'impliquent, mais à fond, quoi, hein, dans des questions. Alors, les semences, par exemple, ben, la protection des semences sur la planète, ce sont des femmes. D'abord parce que pareil, la place, c'est elle qui sème souvent, enfin voilà, et elle se retrouve là-dessus. Et c'est pas par hasard aussi qu'il y a un écoféminisme et qui me parle, moi, en fait, parce que c'est une remise aussi en cause du modèle dominant et qui est donc très patriarcal, en fait.
Oui, hein. Très masculin, en fait.
Et très masculin.
On aimerait que les femmes, c'est vrai que parfois les féministes ont envie que les femmes deviennent presque des hommes,
voilà.
Travaillent autant qu'eux,
voilà,
etc.
Voilà, et donc, voilà. Donc l'écoféminisme, c'est une chose qui me... J'aime bien cette idée de... Parce que revendiquer, comme tu dis, l'égalité pour les femmes, c'est toute la mise en cause d'un système, mais qui est comme la clé de voûte du système capitaliste, qui est comme la cause principale de l'échec et de l'impasse dans laquelle nous sommes, me semble-t-il. Oui. Et en même temps, remettre de la féminité, mais dans le sens de la terre-mère, quoi. Enfin, la mère.
Mais là, tu essentialises un petit peu.
Le soin et l'attention.
Mais voilà, il faut faire attention, mais quand même, enfin, je suis d'accord.
Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a eu ce lien entre les éthiques environnementales, prendre soin de la terre, et les éthiques féministes.
Voilà.
En effet, où les femmes prennent soin. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ce paradigme du prendre soin,
c'est
il est
paradigme.
Très intéressant à promouvoir, voilà. Et à mettre à la place des vieux paradigmes de conquête et d'exploitation, qui étaient des paradigmes plutôt masculins, en fait.
Hein. Oui, et quand tu lis, bon, tu sais, tes collègues, par exemple, aux États-Unis parlent de l'économie du soin, du care.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Du care, le modèle dont on a besoin, post-croissance, débarrassé de l'obsession du toujours plus, toujours plus. Bon, on le remplace par le toujours mieux, mais ça veut dire quoi? C'est notamment c'est le soin, hein, c'est prendre le soin des ressources, c'est prendre le soin aussi des hommes qui travaillent, les hommes au sens, voilà, les femmes, enfin les humains qui travaillent dans... Voilà, donc c'est ça, c'est le soin.
Est-ce que vous vous sentez, dernière question, militante alerteur de Dominique Méda?
Oui, alors moi je n'ai pas une activiste. Je le regrette parfois. Je n'ai pas les outils pour être une vraie activiste. Donc j'essaie d'être activiste avec mes livres.
Marie-Monique Romain?
Toi, tu es activiste avec tes films.
Oui, vu la définition que j'ai du mot journaliste, finalement, je considère que c'est un lanceur d'alerte. Ça devrait être
la
ça, un
plume dans
donc,
la plaie.
Je trouve que voilà, la plume dans la plaie. Donc finalement, oui, lanceuse d'alerte. J'espère lanceuse d'avenir parce que je suis beaucoup dans la proposition, proposition quoi, à travers mes films, enfin ou mes livres, voilà.
Avant de se quitter, donnez-nous une phrase fétiche, celle qui vous porte peut-être au quotidien. Marie-Monique Robin, je sais qu'il y a Sénèque ou Victor Hugo aussi qui vous parlent.
Alors l'une ou l'autre
Les deux, soyons gourmandes.
Alors Sénèque, je la cite souvent parce que j'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Voilà. Et puis Victor Hugo, rien n'est plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue.
C'est beau.
Ouais.
Dominique Méda, à vous.
Alors moi, ça me fait penser ce que tu viens de dire à Nietzsche, les grandes idées arrivent à pas de colombe.
Ah, c'est très beau ça.
C'est très beau aussi.
Ouais, très beau.
Oh, vous nous gâtez toutes les deux aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois qu'on applaudit aussi de l'autre côté de la vie, du côté de la technique. Vous voyez, vous faites des émules. Merci Marie-Monique Robin. Merci Dominique Méda. Et toutes les informations sur vos livres, sur vos films, les références et les liens sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr à la page de Cause à effet. Réécoute et téléchargement également. Et samedi prochain, c'est Alain Bougrain-Dubourg qui sera des nôtres avec en seconde partie un invité qui se fait rare, Pierre Déhomme, le créateur du journal La Hulotte. Bon week-end à ceux qui nous ont suivis, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Et tout de suite, place à l'équipe de la rédaction de France Culture pour le journal.